Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations. Noila Luzitu Kabambi.
MSF tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence des violences visant les populations civiles et les structures de santé dans la province de l'Ituri. L'ONG Médecins Sans Frontières le dit dans un rapport publié hier et intitulé « Risquer sa vie pour survivre, Ituri, terre de déplacement et de violence ». Travailler pour renforcer la lutte contre la tuberculose en RDC, c'est l'engagement pris par des médecins, des chercheurs et de nombreux autres experts en santé au cours d'un atelier sur l'importance de la communication dans leur secteur sur cette maladie. Docteur Daniel Okitundu, médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, est l'invité de Radio Okapi ce matin. À l'occasion de la célébration des 50 ans d'existence du CNPP, il fait un état de lieu de cette importante institution sanitaire. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. L'organisation humanitaire MSF tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence des violences visant les populations civiles et les structures de santé dans la province de l'Ituri. Dans un rapport publié hier et intitulé « Risquer sa vie pour survivre, Ituri, terre de déplacement et de violence », MSF retrace le drame humain vécu par les civils pris pour cible dans des zones comme Djougou, Mahagi et aux alentours de Bounia. Ce document révèle que même les structures de santé et le personnel humanitaire ne sont pas épargnés par les épisodes de conflit. Face à ce constat alarmant, Emmanuel Lampaert, représentant pays de MSF en RDC, appelle la communauté internationale à prendre conscience des conditions dramatiques dans lesquelles survivent les victimes de ces violences. Il souligne également l'impérieuse nécessité de respecter le droit international humanitaire par le porteur d'armes. Emmanuel Lampaert est dans cet extrait choisi par Ronéline Tibonera.
Nous aimerions éviter que les touristes ne tombe dans l'oubli dans ce moment où l'Est de la RDC traverse une crise profonde. Rappeler à l'ensemble des acteurs armés, porteurs d'armes en Ituri, sur leur responsabilité en termes de respect du droit international humanitaire, c'est-à-dire épargner les populations civiles, les structures de santé et les activités humanitaires contre toute forme d'attaque et de violence. Même dans les zones de conflit et en temps de conflit, il y a des principes et des règles qui s'appliquent. Également, nous aimerions attirer l'attention de la communauté dite humanitaire sur l'aggravation davantage de la situation en Ituri. Attirer l'attention des bailleurs de fonds sur les conséquences des coupes budgétaires et les implications pour les plus vulnérables en Ituri.
Et comme pour illustrer ce rapport de MSF sur le terrain, les affrontements entre les miliciens de la CODECO URDPC et l'armée ougandaise UPDF dans la région de Fataki sur la route nationale numéro 27 impactent négativement la vie socio-économique dans la ville de Bounia. Le trafic est pratiquement suspendu sur cette route nationale reliant la ville de Bounia à la cité frontalière de Mahagi. Plusieurs produits de première nécessité, notamment le haricot ou l'huile végétale, sont devenus rares et connaissent une flambée de prix sur le marché local. Martial Kizabiamongo.
C'est cette ambiance qui vous accueille à l'entrée du bloc des vendeurs des haricots au niveau du marché central de Bounia. Certains dépôts sont fermés par manque de stock. Ceux qui sont opérationnels ne disposent que d'une petite quantité de marchandises. Les vendeurs attribuent cette situation à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Fataki à la suite des combats qui opposent depuis bientôt 2 semaines la CODECO aux troupes de l'armée ougandaise UPDF. Conséquence, un seau des haricots qui s'est vendu à 25 000 francs se vend actuellement à 35 000 voire 45 000 francs congolais. Elisabeth Birongi, vendeuse des haricots, lance ses cris d'alarme.
Les pigeons verts se vendent à 45, 42, 43 000 à cause de l'insécurité sur cette torsion routière. Si la route est sécurisée, le prix des haricots est stable. Même le maïs se vend à 14 000. S'il y avait la sécurité sur cet axe routier, nous serions ravitaillés en maïs ici.
Plusieurs autres produits de consommation courante tels que la pomme de terre ou la tomate sont devenus rares et chers. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Des médecins, chercheurs et de nombreux autres experts en santé s'engagent à travailler pour renforcer la lutte contre la tuberculose au pays. Ils ont levé cette option au cours d'un atelier sur l'importance de la communication dans leur secteur sur cette maladie. Travaux organisés le lundi en marge de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars. Explication avec Plotin Yambenga.
Cette rencontre est une initiative d'Africa Communication Group en collaboration avec la Fondation Gates. Elle a planché sur plusieurs sujets, dont l'importance de la communication en santé et celle de communiquer les résultats des recherches en santé. Ces forums s'est également appesanti sur les plaidoyers dans la politique de santé en RDC. Spécialiste en communication en santé publique, Armel Niobe estime que les médecins ont intérêt à simplifier leur langage en évitant des termes techniques pour une bonne communication avec les patients.
Ça a été une journée de formation très intense. J'ai beaucoup apprécié la flexibilité et l'humilité des médecins, des chercheurs. Je les ai trouvés très désireux d'apprendre et de se remettre en question.
Docteur Aminata Diop, œuvrant dans la lutte contre la tuberculose, dit avoir compris que la communication est importante pour améliorer la prise en charge des patients tuberculeux. Elle permettra d'empêcher la contamination.
La journée de formation sur la tuberculose en Afrique s'est bien déroulée. Après cette journée déjà, on s'est rendu compte que ce qui bloque le plus concernant la tuberculose, c'était la prévention primaire. On a compris que pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on communique plus et qu'on communique mieux, non seulement avec nos patients, mais aussi avec la communauté.
Cette année, la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est commémorée sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose », s'engager, investir et agir concrètement.
Dans la province du Haut-Katanga, cette province a enregistré beaucoup de cas de tuberculose en 2024. La ville de Lubumbashi compte à elle seule plus de 49% des cas notifiés dans la province. Statistiques fournies le lundi par le ministre provincial de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Pour lui, cette maladie est évitable et guérissable. Plus de détails avec le ministre Joseph Sambi Boulanda dans cet extrait sélectionné par Jean Gando.
En 2024, 24 605 cas ont été enregistrés, parmi lesquels 1905 co-infectés avec le VIH, 305 cas de tuberculose multirésistante et 9 cas de tuberculose ultra-résistante. La ville de Lubumbashi vient en tête avec 11 824 cas. La tuberculose est une maladie évitable et guérissable. Le diagnostic et le traitement précoce constituent les mesures les plus efficaces pour éviter les décès et limiter la propagation de la maladie. Les individus, les ménages et les communautés sont ainsi invités à consulter le centre de santé le plus proche dès l'apparition des signes, en l'occurrence la toux, quelle qu'en soit la durée, pour se faire dépister de la tuberculose. Les autres signes possibles sont la fièvre, les douleurs thoraciques, la transpiration nocturne, la fatigue, la perte de poids et le manque d'appétit.
Pendant ce temps, la province du Kwilu a enregistré au moins 17 700 cas de tuberculose, toutes formes confondues, au cours de l'année 2024. Elle occupe la quatrième position en termes de détection de cette maladie au niveau du pays. Pour le médecin coordonnateur provincial du Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, la maladie est bel et bien présente parmi la population du Kwilu, car d'autres malades attendus n'ont pas été notifiés pour la prise en charge. Docteur Willy Mosantou insiste sur la nécessité de dépistage actif des populations et en appelle à l'engagement de tout le monde pour lutter contre cette maladie qui se manifeste notamment par la toux, l'amaigrissement, la fièvre et autres symptômes. Le Congo central, quant à lui, a enregistré près de 8200 cas de tuberculose en 2024. Il est parmi les provinces à forte charge de cette maladie en RDC. Malheureusement, plusieurs malades dépistés manquent des médicaments. C'est ce qu'a révélé le docteur Bazinga Batani, médecin coordonnateur provincial de la lèpre et tuberculose au Congo central. Docteur Bazingama Batanti, médecin coordinateur provincial de la lèpre au Congo central ouest, appelle à cet effet à un engagement politique et social pour des efforts conjoints autour des activités de la lutte et de la prise en charge de la tuberculose. Dans le territoire de Mambasa, en Ituri, la zone de santé des Nyanya fait face à une rupture de stock des médicaments contre la tuberculose. C'est le médecin chef de zone de santé qui donne l'alerte à l'occasion de la célébration le 24 mars de la Journée internationale de lutte contre cette maladie, une situation qui met à mal la prise en charge des centaines de malades dans la zone. Les femmes de l'université de Kinshasa recommandent au ministère du Genre, Famille et Enfants d'assurer une bonne prise en charge holistique des survivantes des conflits armés dans l'est du pays, tout en mettant en place des mécanismes de prévention. Cette recommandation a été faite au cours d'une matinée d'échange organisée lundi au chapiteau de l'UNIKIN. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Femmes, paix et sécurité ». Par ailleurs, elle demande également à ce ministère d'impliquer les femmes dans les programmes de résolution de conflit. Jafet Kalula Kalula, coordonnateur des étudiants de l'UNIKIN, invite les femmes congolaises à participer dans le processus de paix et la sécurité.
Aujourd'hui, on nous a parlé des droits, d'égalité et d'autonomisation. Au-delà d'être que des mots, c'est un cri du cœur, un cri des millions de femmes et filles qui ne veulent que exister à égalité, réussir à égalité, mais aussi, j'irais à dire, rêver à égalité. Tout en participant à la paix et à la sécurité de notre pays, la République démocratique du Congo. Laisser une seule femme en arrière, c'est priver le monde de sa lumière. Mais aussi soutenir la femme, c'est bâtir un avenir plus fort et juste. Par conséquent, je dirais à toutes les femmes ici présentes, toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mais aux femmes que j'aime mieux, les étudiantes femmes de l'Université de Kinshasa, que vous êtes la preuve vivante que tout est possible. Tout est possible parce que vous êtes les meilleurs et qu'avec vous, nous hommes, on ira aussi de l'avant. Par conséquent, je dirais que vivent toutes les femmes congolaises. Je vous aime beaucoup et je vous remercie.
Sachez également que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a mis un accent sur l'autonomisation et l'éducation de la femme, qu'elle considère comme levier de prévention des conflits. Pour sa part, la directrice du cabinet du ministère du Genre et Famille et Enfants, Madame Alda Shanti Tuluka, a mis un accent sur le rôle incontournable que la femme congolaise joue et est appelée à jouer dans le processus de paix en RDC. Il est temps de mettre de côté les couleurs politiques en vue de renforcer la cohésion nationale dans ce contexte marqué par l'agression rwandaise. C'est en tout cas le point de vue de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, le regroupement politique qui a porté la candidature du prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege. Elle l'a dit au cours d'un point de presse hier à Kinshasa. Pour son vice-président, l'intégrité territoriale de la RDC est une priorité telle que l'a toujours soutenu le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. La CRN soutient par ailleurs l'initiative du pacte social des églises catholiques et protestantes et aussi l'appel lancé par le président de la République pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. On écoute Mambo Katunda, vice-président de ce regroupement, dans ses propos recueillis par Plante Yambenga.
Nous nous réjouissons de voir que l'ensemble de la classe politique nous rejoint dans cette quête de la paix et demandons au peuple congolais de s'unir pour rétablir la paix et la sécurité dans notre pays au premier plan. C'est ici l'occasion pour nous de louer les efforts fournis par le prix Nobel Denis Mukwege qui ne ménage aucun effort pour se rendre partout dans le monde où on parle de la paix et de la sécurité au Congo. La CRN, regroupement politique qui a porté la candidature du prix Nobel de la paix. Le professeur Denis Mukwege aux élections de 2023 pense qu'il est temps que les responsables politiques congolais identifient les questions d'intérêt national qui nécessitent un consensus sans faille, une mobilisation de toutes les bonnes volontés et un patriotisme exemplaire pour la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. Chers compatriotes, plus de 6 millions ou 8 millions ou 10 millions, même 1 million de morts, c'est trop. Il faut donc mettre fin à cela.
Province du Maniema, les agents de la société Sakima acceptent de lever leur mouvement de grève déclenché depuis le 20 février dernier. Selon le directeur des ressources humaines, cette décision se justifie par la volonté de leur employeur de payer successivement 2 mois de salaire aux agents commis à la centrale hydroélectrique. Bingundu Kabalajak fait savoir cependant que la cause demeure toujours et sollicite l'implication des autorités pour la relance de la société et pour que tous les agents et cadres soient remis dans leurs droits. Bingundu Kabalajak Jacques est joint par Florence Kizalunga.
Les agents de la Sakima étaient en grève, oui, une grève déclenchée le 20 février par les travailleurs de la centrale Rutshuru-Kuru et qui s'est étendue sur l'ensemble du personnel le 7 mars. Ils réclament le paiement des 18 mois et demi d'arriérés de leur salaire. Conscient de la sauvegarde du patrimoine légué par leurs aïeux, à cela s'ajoute le paiement par l'employeur de 2 mois progressifs de ses arriérés de salaire, ce qui a motivé la reprise du travail depuis ce 17 mars. Mais Il faut savoir que la cause demeure toujours, madame. C'est pourquoi nous recourons aux plus hautes autorités du pays qui nous suivent en ce moment de prendre à cœur la situation de la société aurifère du Kivu et du Maniema qui a besoin d'un financement nécessaire pour sa relance et son bon fonctionnement comme les autres sociétés minières, car l'économie de la province et du pays tout entier en dépend.
Actualité internationale.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a mis hier à la retraite le chef de l'armée du pays et l'a nommé ministre des Sports et de la Culture, où il remplace Christy Coventry, élu la semaine dernière à la tête du CIO. Les raisons de cette décision n'ont pas été précisées et dans l'immédiat, elle intervient alors que les tensions et affrontements politiques se multiplient à l'approche des élections générales de 2028.
L'invité.
L'invité du journal s'appelle Dr. Daniel Okitundu. Il est médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP. Il profite de la célébration des 50 ans d'existence du CNPP pour redresser un état des lieux. On l'écoute dans cet entretien avec Mundumbi Benjamin.
Dr. Okitundu, bonjour.
Bonjour.
50 ans après, quel bilan?
Le CNPP, qui est une institution de soins de santé du cerveau et de santé mentale, après 50 ans, a réalisé des choses positives, notamment en ce qui concerne la formation du personnel dans le domaine de la santé mentale et de la santé du cerveau. On compte à peu près 152 médecins formés en 50 ans dans le domaine de la santé mentale et du cerveau, avec plus de 20 professeurs dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie. Pour répondre aux besoins du centre, nous avions introduit une filière de formation à l'ISTEM, la formation des infirmiers en neuropsychiatrie. Actuellement, ce n'est plus la formation des infirmiers en neuropsychiatrie, mais c'est la formation des techniciens en santé mentale. Le CNPP contribue à la formation de ces agents-là à l'ISTEM.
Docteur Okitundu, que dire en ce qui concerne les infrastructures du CNPP 50 ans après?
Du point de vue des infrastructures, ce qui est négatif, parce que le CNPP c'est un grand projet, on devait avoir en plus des services de psychiatrie générale, de neurologie générale, le service de psychiatrie pour les enfants, de neurologie pour les enfants, le service de soins de santé mentale pour les policiers et militaires, tous ces services n'ont pas encore été construits et je pense que le moment est arrivé, étant donné les besoins de la nation, que ces services soient construits au CNPP. Nous avons connu des difficultés, nous soignant les personnes qui sont vulnérables et n'ayant pas de moyens. On a connu une dégradation importante de notre infrastructure. Et heureusement, nous avons décidé, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire, le CNPP est rené avec une nouvelle peau et vous avez pu constater la réhabilitation des infrastructures qui est en cours.
Comment le centre a-t-il contribué à la prise en charge des troubles neuropsychologiques en RDC?
Ce qui est beaucoup plus important à mentionner, chaque fois qu'il y a une menace sécuritaire, c'est au CNPP qu'on amène toutes ces personnes en errance, qu'on ramasse dans la rue pour soins. Et le CNPP est toujours sollicité chaque fois qu'il y a menace sécuritaire pour faire l'expertise en santé mentale de personnes qui sont mises en cause, à la police, à la DEMIAP, tout ça. Et là, notre contribution est énorme. Et puis, nous voulons insister, la contribution du CNPP par rapport à la prise en charge de problèmes de santé mentale. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la charge cachée et indéterminée, le problème de santé mentale, qui ont un poids personnel, un poids social et un poids économique important.
Quels sont les services qui sont offerts aujourd'hui par le CNPP et comment se distingue-t-il de ses proposés à ses débuts?
Au début, on a commencé par le service de consultation externe et après, on a installé le service d'hospitalisation. Il y a le service d'hospitalisation de neurologie et le service d'hospitalisation de psychiatrie. Au départ, il n'y avait pas un service d'hospitalisation ou de soins pour les enfants. Aujourd'hui, nous avons un service d'hospitalisation et de soins pour pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale et nous sommes en train d'installer un service de soins et d'hospitalisation pour les enfants qui ont des maladies du cerveau et des maladies des nerfs. Dans la logique actuelle de la rénovation, nous sommes en train de mettre en place des services spécialisés, notamment une unité de soins pour les troubles du sommeil et les problèmes de crise épileptique. On va mettre une unité de soins pour les personnes qui consomment alcool, tabac et autres drogues. On va mettre une unité de soins mère-enfant. Vous voyez la folie de la femme après accouchement. Ces femmes-là ont besoin d'être hospitalisées sans être séparées de leur bébé. Nous sommes en train de chercher à rénover le CNPP et nous aurons des équipements que nous n'avons pas eu auparavant, les équipements de neuro-imagerie. Donc nous sommes en train de progresser et avec notre plan quinquennal, d'ici 2028, le CNPP aura totalement un nouveau visage.
Docteur Okitundu, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Jean-Claude Nsiala, un journal présenté par Noëlla Luzitu et sous la coordination et la supervision de Pélé Kipelamondo.